Dans notre étude de l'Esprit Saint, nous avons vu que le don de l'Esprit Saint est toujours pour aujourd'hui. Et nous avons même vu qu'il y avait, cette relation spéciale, cette relation sûre, où l'Esprit Saint venait nous donner la puissance pour servir Dieu. Et nous avons vu pourquoi nous pensions que c'était vraiment une expérience séparée de la conversion. Nous avons vu aussi que les dons du Saint-Esprit sont toujours pour aujourd'hui. Nous avons commencé l'étude de ces dons spirituels. Et on a rappelé qu'il y avait trois passages dans la Bible qui parlaient en détail des dons. La semaine dernière, nous avons vu Romains 12. Et nous avons vu sept dons que nous appelons des dons de motivation. Dans la mesure où ce sont des dons qui vont motiver la façon dont nous servons au sein de l'Église. On a vu ces sept dons, on en reparlera plus tard. On a parlé aussi d'un passage dans 1 Corinthiens 12. Ça, c'est ce qu'on appelle les dons de manifestation. Et ce sont des dons peut-être souvent les plus spectaculaires. Parmi eux, il y a des dons spectaculaires, comme les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de langue. Et ce sont des dons qui manifestent la présence de Dieu au sein de l'Église. Dieu voulant, nous les étudierons la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on se tourne vers Éphésiens 4. Pour voir ce qu'on appelle les dons de maturation. Ce sont en fait des dons ou des ministères qui sont là pour aider l'Église à mûrir, à croître spirituellement. Et c'est pour ça qu'on les appelle des dons de maturation. Pour être complet, il y a une autre liste qui reprend les dons mentionnés dans ces trois listes, dans 1 Pierre 4. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Éphésiens 4. Si vous voulez vous tourner avec moi, dans la Bible à Colombes, c'est page 220 du Nouveau Testament. Chapitre 4 d'Éphésiens, versets 1 à 16. Nous allons lire ce que Paul écrit aux Éphésiens, mais aussi à nous, les chrétiens du XXe siècle. Je lis donc dans la Bible à la Colombe. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, ceux-là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Et donc c'est au verset 11 qu'il est question de dons. Il est dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Donc ces dons dont nous parlons aujourd'hui, ce sont, on pourrait dire, des dons ministères, des ministères, des services. Ce sont des dons spirituels, bien sûr, mais ils sont offerts par le Christ ressuscité à son Église. Et le but de ces dons est bien précisé. On va voir verset 13, c'est pour nous faire parvenir d'abord à l'unité de la foi. À la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite du Christ. Et verset 15, Paul reprend la même idée. Le but, c'est de nous faire croître à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Donc le but de ces dons, c'est de nous rendre conformes à Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous chantions, celui qui a commencé un travail en vous, l'achèvera. Ça, c'est un passage de Philippiens, hein? Ainsi, je crois. Et ce but, c'est justement la conformité à Jésus-Christ. C'est une vérité qu'on retrouve dans d'autres passages, comme Romains 8. Romains 8, 28. Page 177 dans la Bible à la Colombe. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ça c'est le verset 28, et verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et dans la même idée, 2 Corinthiens 3, 18. Page 204 dans la Bible à la colombe. C'est Paul encore qui parle, qui dit « Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc les dons dont nous allons parler, les dons d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, docteurs, pasteurs enseignants, ne sont pas des dons qui sont faits pour que la personne puisse s'enorgueillir. Ce n'est pas des dons non plus pour glorifier tel ou tel groupe d'église. C'est pas pour glorifier Calvary Chapel. Tous les chrétiens de Nice qui croient en la parole de Dieu, en ce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, ce sont nos frères, même si nous avons peut-être des petites différences d'interprétation, de pratique. Et le but, c'est que tous ensemble, nous croissions en l'image de Christ. Et Paul lui-même parle de cette unité des chrétiens dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, 4. Page 196, Paul déclare « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous, pour à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc au départ, il parle de l'unité dans l'Église, dans le corps de Christ. Dans les premiers versets, il a parlé de verset 1 à 3, quand on n'a pas lu, il décrit la beauté de cette unité. Puis il nous donne la raison de cette unité. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Et puis il passe à la... Donc il parle de l'unité que nous avons en commun, mais il aborde maintenant ce qui nous différencie. Parce que en Christ, unité ne veut pas dire uniformité. Souvent, une des caractéristiques des sectes, c'est qu'ils ont tous le même aspect. C'est difficile de reconnaître un Hare Krishna d'un autre. Ils sont tous chauves avec une toile, avec la même robe. Non, en Christ, il y a l'unité, mais une merveilleuse diversité. Voilà. Et Paul nous dit qu'en fait, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que chacun, chaque croyant a reçu au moins un don. On avait vu que le mot don, charismata en grec, ça vient du mot charis, c'est-à-dire du mot grâce. Donc ça nous rappelle qu'on ne reçoit pas des dons parce qu'on les mérite, qu'on est digne de recevoir ce merveilleux don. C'est simplement un cadeau. Et si Jésus est votre Seigneur et Sauveur, vous êtes assez bon, entre guillemets, pour les recevoir. Au verset 7, on revient à Éphésiens 4. Paul dit que à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Est-ce que vous réalisez ce que je viens de dire? La mesure du don de Christ. Un danger quand on lit la Bible, ou même qu'on est habitué à la lire, c'est qu'il y a des expressions, on pense que ce sont des termes spirituels. Et on n'en saisit pas toute la portée. En fait, ce qu'il nous dit là, c'est que Dieu nous donne sa grâce dans la même mesure qu'il nous a déjà donné son Fils Jésus, qui est mort pour nos péchés sur la croix. Donc sa grâce, il la donne de la même façon qu'il a donné ce cadeau incroyable. Romains 8, 32 est un bon passage aussi qui exprime la même idée. C'est page 178. Parlant de Dieu le Père. Paul déclare, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Notre pasteur à Seattle raconte que lorsqu'il était jeune, il jouait de la musique pour prêcher l'évangile. Et Et une fois, un directeur de supermarché, un chrétien, avait été touché par son ministère. Et à l'époque, bien sûr, eux n'avaient pas beaucoup, les jeunes, l'an passé, on n'avait pas beaucoup d'argent pour manger. Et le directeur leur a dit, écoutez, j'ai le supermarché, je l'ouvre et vous vous servez. Il disait, vraiment? Vous voulez dire un sandwich? Il dit, non, servez-vous, vous prenez des provisions pour remplir vos bras. Oh, ils n'en revenaient pas, ils étaient courés dans les ailes, prenaient du poulet, du pain, des gâteaux, des biscuits, des fruits. Puis ils sont passés, le directeur était à la caisse, pas pour les faire payer, mais parce qu'il attendait qu'ils sortent. Ils étaient là avec leur pile de victuailles. Et il y en a un qui a dit, vous pourriez nous donner un sac, ou des sacs? Et là, il a plaisanté, ah non, les sacs, ça n'a pas été. Et bien sûr, vous pouvez prendre des sacs. Si je vous ai donné des kilos de victuailles, bien sûr, vous pouvez prendre des sacs. C'est la même chose avec Dieu. Il nous a donné son Fils, est-ce qu'il va nous retenir les choses dont nous avons besoin? Est-ce qu'il va retenir des dons qu'il aurait donnés à son Église pour la faire croître? Souvent, on a le sentiment que Dieu ne peut pas être intéressé par ma vie. Et que mes problèmes, au fond, même s'il les connaissait, son nom, il n'est pas toujours sûr. C'est le dernier de ses soucis. Il y a des millions de personnes sur la Terre, des milliards de personnes. Dans des situations bien plus difficiles que les miennes. Mais à quoi Dieu est-il prêt pour moi? Il est prêt à envoyer son Fils unique. Paul nous dit que Jésus-Christ est mort pour moi. Comment savons-nous qu'il est prêt à faire ce sacrifice? Parce qu'il l'a déjà fait. Comment pouvons-nous douter de son amour? Paul continue en citant un psaume, le psaume 68:19. On peut se tourner au psaume 68:19. Ça, c'est pas 578 dans le début de la Bible à la colombe. C'est une prophétie messianique. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure, éternel Dieu. Dans la culture du Moyen-Orient de l'époque, lorsqu'un roi était vainqueur dans une bataille, il prenait des dons parmi les prisonniers, il faisait des prisonniers parmi les vaincus. Et là, c'est un peu modifié ce verset. Il est dit qu'il a fait des dons aux hommes. Il ne dit pas qu'il a fait emmener des captifs. Dans le psaume 68, c'est Dieu qui prend des dons parmi les humains. Mais ici, c'est Dieu qui donne des dons aux hommes après avoir emmené les captifs. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré ce changement. Donc il est tout aussi vrai que la première prophétie. Et en fait, l'Esprit Saint nous dit ici que le Christ ressuscité et exalté a libéré les croyants de l'Ancien Testament. Il a pris des humains, même des rebelles, pour en faire des dons aux hommes. Paul est un bon exemple d'un rebelle que Dieu a interpellé, qu'il a prélevé comme un don pour nous le donner. Vous savez que Paul est vraiment un cadeau pour nous. Il écrit plus de la moitié, ou près de la moitié, 13 sur 27 des livres du Nouveau Testament. Et à ce jour, nous nous délectons de ces paroles inspirées par l'Esprit Saint. Juste une petite parenthèse, dans Luc 16, c'est pas la peine d'y tourner, mais vous vous souvenez de l'histoire de Lazare et du riche patron? Et on voit qu'en fait, l'homme riche se retrouve dans le séjour des morts, dans un compartiment de souffrance. Alors que les justes, dont Lazare, se retrouvent dans le sein d'Abraham. Un endroit de joie et de réconfort qui est séparé de l'endroit de tourment par un grand abîme. Et avant la mort de Jésus sur la croix, les justes allaient dans cet endroit, le sein d'Abraham. Plusieurs passages, dont dans Pierre et ces passages de Paul, nous voyons que Jésus-Christ est descendu après sa mort sur la croix. Pour prendre les saints, c'est-à-dire ceux qui avaient mis leur foi en Dieu, en Christ, dans l'Ancien Testament. Pour les emmener en sa présence. Et depuis sa résurrection, nous savons que lorsque nous mourons en Christ, nous sommes instantanément avec lui. Donc ça, c'est cette référence, il a emmené des captifs. Donc par cette grâce de Dieu qui est mesurée par le don de son Fils,
God's grace, which we see a measure of in the midst of his time,
Vous pouvez avoir reçu un ou plusieurs des dons de motivation dont nous avons parlé la semaine dernière. Le don de prophétie, le don de diaconat, c'est-à-dire de service, le don d'enseignement, le don d'exhortation, d'encouragement, le don de libéralité, de générosité avec vos ressources financières, le don d'administration, de direction, le don de miséricorde. Et en fait, ces cadeaux, vous pouvez les utiliser ou ne pas les utiliser. C'est des cadeaux qu'on vous a fait chez vous qui dorment dans des armoires. Mais si vous les mettez en pratique, vous allez grandir dans votre don. Et Dieu pourrait répondre en vous donnant un de ses dons ministères. Le verset 11 dit que c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Il est important de réaliser que seul Dieu peut vous placer, vous appeler et vous placer dans un ministère. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide soi-même, qu'on obtient en allant à l'école, en obtenant un diplôme. Mais il est vrai que lorsqu'on se sait appelé, il est important, on a la responsabilité de se former, d'étudier. Et ces dons vont permettre de bâtir l'Église. Encore une fois, quelqu'un a dit, les dons ne sont pas des jouets avec lesquels on joue. Ce sont des outils avec lesquels on bâtit. Et s'ils ne sont pas exercés dans l'amour, alors ils peuvent devenir des armes avec lesquelles on se bat les uns contre les autres. Voyons donc ces quatre dons. Les apôtres. Ils sont appelés par Dieu pour fonder ces églises. Le mot apôtre veut dire celui qui est envoyé avec une mission. Jésus avait beaucoup de disciples, mais il avait choisi 12 apôtres. Un disciple, c'est quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui suit. Mais un apôtre, c'est un représentant commissionné par Dieu. Et une des caractéristiques, une des qualifications d'un apôtre, c'était d'avoir vu le Christ ressuscité. Lorsque Pierre suggère qu'on remplace Judas, il dit dans Actes 21, il dit: ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. 21. Il fallait donc avoir vu le Christ ressuscité de ses propres yeux. Et Paul revendiquait la fonction d'apôtre, le ministère d'apôtre. Et c'est vrai que sur le chemin de Damas, il avait vu le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 9, c'est pas la peine de vous y tourner, il dit: ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu notre Seigneur? Et en fait, à l'époque, des signes et des miracles accompagnaient aussi le ministère des apôtres. De Corinthiens 12:12, il est dit par Paul, encore c'est pas la peine de vous dire, les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, patience, les apôtres étaient très patients, par des signes, des prodiges et des miracles. C'est vrai que l'Église du 1er siècle, il n'est pas appelé l'Église primitive, n'avait pas encore le Nouveau Testament terminé comme autorité finale. Paul déclare dans Éphésiens 3:5, parlant du salut offert à tous, il dit que ça a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et maintenant, le Nouveau Testament est terminé, la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, constitue la parole de Dieu qui fait autorité. Paul, dans Éphésiens 2:19, déclare: vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Il est clair qu'on ne pose qu'une fondation une seule fois. Donc il n'y a plus d'apôtre au sens premier du terme aujourd'hui. On continue des fois à utiliser le terme pour désigner des personnes qui ont un rayonnement de missionnaires pionniers. Hudson Taylor, le grand missionnaire qui a commencé une œuvre en Chine, pourrait être considéré comme un apôtre parce qu'il est allé là-bas, il a commencé des tas d'églises. Certains, bien qu'ils n'aiment pas ce terme, disent que Chuck Smith est un apôtre. Parce qu'à partir de son œuvre, il y a plus de 600 églises aux États-Unis et centaines ou 200 dans le monde. Et encore une fois, le terme d'apôtre n'est plus le même. Mais le don de quelqu'un qui peut planter des églises, implanter, existe toujours. Il y a des apôtres, maintenant il y a des prophètes. Donc les uns, ils les donnent comme apôtres, les autres comme prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est quelqu'un qui est appelé par Dieu à centrer l'Église sur le message de l'Évangile. Leur ministère, c'est d'appeler les gens à se tourner vers Dieu. Ou à se retourner vers Dieu, revenir à Dieu. Il parle des paroles qui expriment le cœur de Dieu. La racine du mot, ça veut dire révélé par des rayons de lumière. Par exemple, de montrer la désobéissance, le mensonge, le péché à la lumière de la parole. Dans l'Ancien Testament, le prophète parlait directement de la part de Dieu. Il avait une autorité qu'on trouve maintenant dans la Bible. Mais les prophètes de ce genre ont été aussi posés une fois pour toutes comme fondation de l'Église. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il existe toujours un ministère de prophètes. Et c'est celui de proclamer la parole de Dieu clairement et de façon persuasive. Dans l'Ancien Testament, le terme avait une notion de prédiction du futur. Mais en fait, ce qui comptait, c'était la proclamation de la vérité. Cette vérité, elle est maintenant révélée complètement dans la Bible. Donc le prophète aujourd'hui va proclamer la vérité, le jugement de Dieu sur le péché, le salut en Christ. Il va mettre en évidence les conséquences de nos vies s'il y a du péché dedans. On pourrait dire que ce sont des porte-paroles puissants qui parlent à notre société sur les problèmes qui viennent de notre rébellion. Billy Graham, par exemple, est un de ces prophètes. Il est aussi, on le sait, un évangéliste. Un évangéliste est appelé par Dieu à faire avancer l'Église. Et ceux qui ont reçu ce ministère ont reçu comme une onction spéciale de l'Esprit Saint. Pour proclamer l'Évangile simplement, avec une grande conviction et persuasion. Et lorsque les personnes les entendent, ils réalisent leur besoin de salut. Et ils viennent au Seigneur. Ils ont de compassion de ceux qui sont perdus. Des fois, on peut prier que le Seigneur nous donne cette compassion. Trop souvent, on peut être dans un endroit où tout le monde a l'air heureux. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que s'ils ne connaissent pas le Seigneur, leur futur est terrible. Les évangélistes voient les multitudes avec les yeux de Jésus. Et chaque endroit, chaque moment est un bon endroit, un beau moment pour parler de Jésus-Christ. Ils ne sont pas nécessairement éloquents. Ils ne parlent peut-être pas le langage du pays où ils se trouvent. Mais ils ont ce don d'évangéliste qui brûle dans leur cœur. Alors bien sûr, nous avons la joie parmi nous d'avoir une évangéliste comme ça. Mais le danger serait de dire que Ça, c'est pour Joyce. Moi, je ne suis pas vraiment un évangéliste. Même si nous n'avons pas reçu ce don, ce ministère, nous sommes tous appelés à faire le travail d'un évangéliste. Alors peut-être qu'on n'aura pas le même zèle, le même facilité à partager l'évangile. Mais c'est une commande de 2 Timothée 4:5. Ne pas y avoir d'agent secret pour Dieu. De Timothée 4 à 5, c'est page 242. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Et ça, vous me direz, c'était adressé à Timothée, mais c'était adressé à tous les croyants. Et un bon exemple se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, pour nous guérir de l'idée que l'évangélisation, c'est le travail des professionnels. Il est dit que page 141, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc il faut bien comprendre, tout le monde, tous les chrétiens sont forcés de partir en Judée, en Samarie. Les apôtres, eux, restent à Jérusalem. Donc ça, c'est les professionnels, ils restent dans la capitale. Professionnels, entre guillemets, bien sûr. Verset 4, ceux donc qui avaient été dispersés, les amateurs, allaient de lieu en lieu, en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc c'était les simples croyants qui faisaient le travail d'évangéliste là. Et finalement, il y a le don de pasteur enseignant, pasteur docteur. Il est dit ici pasteur et docteur, mais c'est lié ensemble. La phrase au verset 11, c'est les uns ont été donnés comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le mot pasteur, en fait, ça veut dire simplement berger. C'est lui qui mène, qui s'occupe, qui aime, qui nourrit les brebis. Qui les protège des dangers spirituels. Et pour nourrir le troupeau, le don d'enseignement est nécessaire. Chaque pasteur doit être capable d'enseigner. Souvent, lorsque ça devient un don prééminent, le don d'enseignement, alors on parle de docteur. Ils deviennent des bergers pour plusieurs troupeaux. Ils écrivent des livres, ils font des conférences, ils passent d'église en église. Et la meilleure description peut-être de la vocation, du don de pasteur, se trouve dans Jean 21, lorsque Jean, c'est pas la peine de vous y tourner, mais lorsque Jésus demande à Pierre s'il l'aime, après que Jésus soit ressuscité, Et Pierre dit oui, je t'aime. Et à chacune de ces affirmations, Jésus réplique. D'abord, prends soin de mes agneaux. Sois le berger de mes brebis. Prends soin de mes brebis. C'est cet amour du troupeau, des personnes qui sont, qui lui ont été données pour nourrir et pour protéger, pour aimer. Mais dans tous les cas, on voit que ces ministères ont pour objet d'annoncer la parole de Dieu sous une forme ou sous une autre. Le verset clé, c'est le verset 12 qui dit que ces dons, en fait, sont faits pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification, c'est-à-dire la construction du corps de Christ, de l'Église. Et c'est intéressant parce que dans la chrétienté anglaise, américaine, de langue anglaise, la Bible la plus populaire, la Bible du roi Jacques, the King James Bible, comporte une toute petite erreur de traduction qui a la plus grande répercussion sur l'Église. C'est un peu comme si le diable faisait un pied de nez au Seigneur en disant, regarde, juste avec une petite virgule, je vais essayer de faire dérailler le travail. Et après, si on garde la traduction française en parallèle, il est dit que ces dons sont pour le perfectionnement des saints. Virgule, c'est la fameuse virgule, puis en vue de l'œuvre du service, de l'édification du corps de Christ. Cette petite virgule a donné l'impression il y avait d'abord que ces dons étaient donnés pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire les croyants, d'une part, et puis, et d'autre part, pour l'œuvre de service. Donc ça conduit à l'idée que le pasteur en particulier, c'est celui qui l'a qui doit faire l'œuvre de service. Qu'il est l'homme à tout faire. L'assemblée vient en culte comme on vient en spectacle. On critique, on applaudit, on met des notes. On va en voir un autre pour voir s'il est meilleur. On applaudit ou on cite. Mais on ne participe pas. Alors en France, il n'y a pas le problème de cette traduction avec la virgule. Mais il semble qu'on ait la même fausse conception. Et beaucoup d'églises en France ne dépassent pas la taille de 40-50 personnes. Parce qu'une seule personne pour avoir des contacts personnels et réguliers. Et 40-50 personnes, c'est déjà beaucoup de monde. Si c'est un type vraiment exceptionnel, il y aura une centaine de personnes. Alors que si on applique le principe que ce sont les croyants qui doivent faire l'œuvre de service, alors là, tout est possible. Et Philippe vient aussi d'une église calvarie qui a grandi assez rapidement récemment. Et on a des églises, c'est pas nécessairement un modèle, mais des églises de 7000, 8000 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un pasteur qui est super héros, qui arrive à parler à 8000 personnes toute la semaine. Mais chaque croyant est lui-même un petit pasteur. Et l'œuvre du service, parler aux gens, encourager, visiter, travailler, construire, donner, tout ça, c'est tout le monde est participant. Il y a une petite annonce qui illustre bien de ce qu'on attend en général du pasteur. Il dit, après 100 ans de recherche sans résultat, un pasteur modèle qui devrait convenir à tous a enfin été trouvé. Il est garanti de plaire à toute assemblée. Il ne prêche que 15 minutes. Il explique la parole de Dieu en profondeur. Il condamne le péché. Mais il ne met jamais personne mal à l'aise. Il travaille de 7h du matin à 10h du soir, mais il fait aussi le ménage à l'église. Il gagne 2000 francs par mois, mais il porte de beaux vêtements, conduit une belle voiture et donne 1000 francs aux pauvres. Il a 28 ans et il prêche depuis 25 ans. Il est très gentil et très beau. Il aime travailler avec les ados. Il passe aussi des heures innombrables avec les personnes âgées. Il rend visite à 10 familles. 12 personnes hospitalisées. Passe tout son temps à évangéliser les non-croyants, mais il est toujours disponible à son bureau. Et l'annonce continue en disant, si votre pasteur ne correspond pas à ce profil modèle, envoyez simplement cette description à 6 autres églises qui en ont assez de leur pasteur. Puis expédiez votre pasteur à l'église en haut de la liste. Si personne n'interrompt cette chaîne, en l'espace de 2 semaines, vous recevrez 1643 pasteurs. L'un d'entre eux devrait être le parfait spécimen, gardez-le. On a parlé du perfectionnement des saints. Qu'est-ce que ça veut dire?